À bout de souffle. Rencontre avec Bouchra Wisgen pour la pièce chorégraphique Duo Aïta. Le duo Aïta est une première étape de travail pour une pièce de corps et de chant, Madame Plaza, un quator dansé. Rencontre croisée avec Taoufik Izediou pour le festival On Marche, festival de danse contemporaine à Marrakech. Diva, Aïcha, Naïma, réminiscence, nostalgie d'un passé. Appeler, parler, crier, voix ayant accompagné beuverie et mariage. Voix et corps exploités à souhait. Les Aïtas restent les plus libres dans ce pays où la culture de la terre revient à l'homme. Elles ont choisi l'art, passant par les coups sur leur corps, les insultes et la rupture nette avec une famille qui les a reniées. Par le public, elles sont tantôt adulées, tantôt méprisées. Il est ici des femmes dérangeantes qui ne font pas de l'art contemporain, et il est faux de les enfermer dans un folklore, car leur présence est profondément actuelle. Cela fait 2 ans que je voyage au Maroc, nous dit Bouchra, à la rencontre de ces femmes d'une autre génération. Quand elles jouent, je vois que nous ne sommes pas si éloignés dans notre quête de liberté. Leur langage, oralité, cri, nostalgie et amour est aussi le mien. À bout de souffle.
Alors nous sommes au Centre chorégraphique national de Tours et aujourd'hui nous accueillons Bouchra Wisgen à propos de la pièce chorégraphique présentée au Festival Danse d'Existence, Danse de Résistance, une pièce chorégraphique qui s'intitule Aïta. Petite présentation un peu rapide, succincte. Alors Bouchra Wisgen, vous venez de la danse orientale, vous étiez soliste dans la danse orientale, puis vous êtes formé entre l'Europe et le Maroc, notamment auprès de chorégraphes comme Bernard de Monté, Mathilde Monnier et Boris Charmartz. Vous fondez la compagnie Anania avec Taoufik Izediou, lui-même danseur pour la compagnie de Bernard de Monté. Et vous fondez cette compagnie également avec Saïd Aït El Moumen.
Exactement.
Vous créez des solos, Anaunta, Mort et moi, et le duo présenté ici qui s'intitule Aïta. Et vous co-écrivez un duo avec Taoufik Izediou qui s'intitule Désir Désir et qui avait déjà été présenté ici au festival, je crois que c'était dans le cadre du festival ou dans un accueil studio, ici au Centre chorégraphique national de Tours. Et puis vous travaillez également sur une prochaine création qui s'appelle Madame Plaza.
Les premières images, c'est Naïma qui roule sur scène comme si elle venait d'échouer quelque part. Et qu'on l'a retrouvée portée jusqu'à nous. Puis elle va se porter jusqu'à nous. Puis à un moment, on va découvrir qu'il y a 2 présences sur scène. Et à votre tour, vous allez rouler vers nous. Puis porter votre regard vers un horizon qui est peut-être celui du spectateur. Et au fur et à mesure, en fait, la construction spatiale et le rapport entre vous deux va se construire sur on se rapproche, on s'écarte, et comme si on ne savait jamais si le corps était vraiment, il peut être désiré dans l'espace, il peut déranger, mais c'est toujours une présence qui est menacée, qui inquiète et qui est inquiétante.
Alors donc effectivement, avec Taoufik, on avait créé en 2006 spécialement pour Montpellier Danse, donc 2006 ce duo. qu'on avait en tête et qu'on a pu concrétiser. Habituellement, sur les précédentes créations qui ont été surtout des solos, puisque j'ai commencé comme une soliste en danse orientale dès l'âge de 15 ans jusqu'à 20 ans, en autodidacte, j'ai continué sur des formes de solos aussi en danse contemporaine. La première pièce, je dirais, partagée avec quelqu'un d'autre a été avec Toufik. Et encore une fois, il y a eu une volonté de couper cette dualité, de couper aussi les hommes, les femmes en deux spectateurs. Et ces coupures-là ne sont que des prétextes à désirer, à fantasmer, à rencontrer l'autre. Et c'est ce qui se retrouve aussi, je dirais, dans le duo qu'on a présenté avec Naïma. Sauf qu'on sait, je me suis peut-être finalement moins souciée d'une esthétique ou d'un concept ou d'une scénographie. On est parti directement vers la rencontre qu'on a vécue. Donc ça a été une carte blanche pour un festival nomade qui s'appelle le Young Arab Theater. Vu que ça devait être une pièce de groupe, Madame Plaza, où j'ai imaginé quatre femmes populaires chantant un chant très, 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 très populaire, très connu depuis au moins un siècle, transportant avec elles à la fois leur histoire, l'histoire du Maroc, l'histoire des histoires réelles qui ont été vécues. J'avais envie de travailler avec des corps, des vécus à la fois différents d'une autre génération et en même temps avec lesquels je me suis sentie les plus proches. Donc voilà. Et le duo avec Naïma est une performance qui a été créée et qui est une étape donc de ce projet-là. Ça ne pouvait pas partir de quelque chose de conceptuel. Ça ne pouvait pas partir sur des idées construites. On est parti de choses extrêmement simples, se toucher, s'embrasser, se parler, chanter, rire. Et donc, à partir de là, on a pu construire des repères qui pouvaient sembler être le même vocabulaire afin de communiquer. Donc Naïma, je l'ai repérée dans un cabaret où je suis rentrée un jour. Et après 2 ans de voyage à la rencontre de différentes femmes dans des villages, parfois dans des mariages, j'avais envie de changer complètement partir dans un autre rapport à la danse. J'ai rencontré beaucoup de chorégraphes, travaillé donc, comme ça a été annoncé tout à l'heure, avec 3 chorégraphes assez importants sur la scène contemporaine, en tout cas européenne. Et je dirais que c'est peut-être la continuité de ces chorégraphes-là, ces femmes. J'ai pu les retrouver finalement juste dans le bar en face de chez moi. Et donc voilà.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, par exemple, la danse, elle serait davantage portée aujourd'hui par ces femmes, finalement par tous, que plutôt par des danseurs professionnels ?
Non, pas spécialement. Je pense qu'elle était déjà portée avant qu'on arrive par ces femmes. Elles sont artistes quand même, elles ont un rapport au corps, au public chaque soir, certes dans des espaces qui sont assez différents, c'est pas des scènes, c'est pas des théâtres, mais c'est d'autres scènes plus bruyantes où les gens parlent, donc c'est comme des sortes de ça me fait penser à des slameurs qui débutent dans des bars. Donc il y a c'est des scènes, c'est aussi ces scènes-là par lesquelles j'ai commencé en danse orientale. Donc c'est aussi un retour un peu à la fois aux artistes marocaines d'une autre génération, et c'est aussi un retour à un parcours de danseuse orientale que j'avais jusque-là brutalement mis de côté au moment où j'ai commencé la danse contemporaine, parce que je ne pouvais pas faire communiquer les choses aussi rapidement. Il m'a fallu un temps avant de revenir à tout ça.
Oh, it's a net, yeah, oh, it's a net.
Vous dites que les Aïta restent les plus libres dans ce pays où la culture de la terre revient à l'homme. Elles ont choisi l'art, passant par les coups sur leur corps, les insultes et la rupture nette avec une famille qui les a reniés. Par le public, elles sont tantôt adulées, tantôt méprisées. Il est ici des femmes dérangeantes qui ne font pas de l'art contemporain, et il est faux de les enfermer dans un folklore, car leur présence est profondément actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous en parler de ces femmes, de ces Aïta?
Alors, elles ont deux noms, Aïta ou Shira. J'ai choisi les Aïta parce qu'elles ont un chant quand même un peu plus compliqué, plus ancien. Et j'ai le souvenir, depuis toute petite, d'avoir toujours entendu que c'était les femmes à ne pas fréquenter. C'est des femmes infréquentables, infréquentables pour d'autres femmes, pour des hommes, à la fois par leur manière de vivre, cette liberté qu'elles ont. Elles ont choisi l'art à une certaine époque au Maroc, quand même, où c'est difficile déjà pour moi aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça devait être pour elles? Et pratiquement toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'est pas pratique, toutes celles que j'ai rencontrées, le jour où elles ont décidé de faire ce travail et de mener cette vie, elles ont toutes eu minimum 1 an, 2 ans de mise à l'écart par la famille. Elles ont été obligées d'aller vivre ailleurs. On ne leur a pas parlé, on les insulte carrément. Donc je trouve que c'est quand même, c'est assez il y a quelque chose de militant dans leur parcours. C'est pas simplement chanter dans des bars. Il y a eu un choix de vie, pas la vie qu'on est prédisposé à être, donc à savoir se marier, avoir des enfants, trouver un mari qui puisse subvenir à leurs besoins. C'est des sortes de muses qui choisissent une vie et un art dans lesquels elles se réalisent. Par contre, c'est pas réalisable avec une famille. Donc, elles sont obligées de partir dans d'autres villes. Il y en a certaines, ça a pris 10 ans avant que les familles leur parlent. Quand les voisins, même dans d'autres villes, apprennent qu'elle est chanteuse et qu'en fait, elle ne tourne que dans un milieu illicite, donc à savoir un lieu où circule l'alcool alors que c'est péché, donc voilà. Tout ça, c'est, je dirais qu'elles vivent dans un cadre totalement interdit. De plus, elles ne se marient pas. Elles se marient, elles divorcent, se remarient une deuxième fois, redivorcent, adoptent des enfants. Et malgré tout, je trouve qu'elles ont il y a une tristesse dans cette joie qu'elles arrivent à transmettre sur scène et dans leur chant. Il y a une fissure qui est quand même vécue, parce que c'est difficile de devoir surmonter quand même tout ça, quoi. D'être renié par sa famille, d'être montré du doigt par ses voisins, voilà.
Et en même temps, c'est de là qu'elles semblent tirer une forme de liberté.
Oui, parce que si tu leur demandes, si tu avais fait le choix inverse, est-ce que tu regrettes d'avoir pris ce chemin? Tu te dis non, absolument pas. Maintenant, on commence à réaliser qu'est-ce que je représente, parce que j'ai, elles vivent financièrement, elles sont totalement indépendantes. Ça commence petit à petit à être reconnue, mais voilà, on les nomme pas des artistes jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Et c'est intéressant cet aspect, parce que c'est une création, une compagnie qu'on peut dire marocaine.
Oui.
Et vous venez de Marrakech, et c'était intéressant par rapport à la danse contemporaine d'aller chercher des exemples au Maroc de liberté possible plutôt que de se projeter sur l'Europe comme lieu de liberté, et d'aller puiser plutôt dans une culture, dans des exemples
propre au Maroc où on peut trouver des libertés.
Oui, oui, complètement. Surtout qu'à la base, ça ne devait pas être un spectacle. Je ne suis jamais partie à la rencontre de ces femmes en vue de monter un spectacle de danse. Je suis partie à leur rencontre, apprendre à chanter, avoir un autre rapport au corps, en posant la question, y a-t-il une danse contemporaine au Maroc ? À part celle qui a été importée d'Europe. Et oui, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre au-delà des danses folkloriques. Il y a des artistes ayant des présences à t'apprendre à avoir sur scène, des voix, et puis des choses de la vie en général à te transmettre. Et c'est un peu comme aussi des sortes de mères que j'ai jamais eues, une complicité à la fois et artistique et intime sur des femmes portant des histoires, c'est aussi des conteuses interminables. Donc voilà.
C'est vrai qu'il y a, Amandine disait au début, on a le sentiment donc, d'un corps qui échoue sur la scène, hein, et donc du coup de quelqu'un qui vient de loin. Mmh. Et la lumière rasante. On a le sentiment d'être dans une nuit étoilée, être dans un songe ou quelque chose de l'ordre d'un rêve, et on voit bien on sent d'un voyage, c'est-à-dire aller à la recherche ou partir loin, on sent qu'il y a eu un voyage avant ce spectacle.
Oui, oui, et donc elle accompagne ça d'un chant, et j'aime bien le fait que tu dises que ça échoue, parce que ça échoue vraiment. Elle chante une chanson autour d'une femme. Donc c'est une histoire qui est réelle, parce que elle s'inspire toujours de toutes d'histoires choquantes dans la société qui sont arrivées et en tire des mélodies, des chansons. Et donc là, c'est l'histoire d'une femme dans un village qui a eu une relation illicite avec un homme dont la famille n'a pas voulu qu'elle se marie avec lui, qu'elle le suive. C'est des histoires comme ça, il en arrive tout le temps, constamment. Et donc cette femme-là disait, je pourrais, c'est un peu comme leur vie, je pourrais renier toute famille et toute rivière qui t'emporte, je me jetterai dedans. Attends-moi, mon amour. Quelle que soit la rivière qui t'emmène, je m'y jetterai. Voilà. Et donc voilà. Et ça ne pouvait que commencer par un roulement comme ça, parce que c'est Naïma est la première femme que j'ai rencontrée. Et c'est une étape, c'est vraiment une étape de travail, une performance qui amène au projet donc de groupe où il y a donc trois autres femmes chanteuses et moi dans le spectacle. Donc ça fera un quatuor de chant a cappella et de danse. Voilà.
En fait, cette première performance, c'est la rencontre.
Oui.
Déjà,
oui.
La rencontre entre oui. vous.
Tout simplement.
Et cette femme.
Oui, tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas eu... ça a été assez joyeux, la résidence, alors que c'est assez souvent prise de tête, les temps de création en danse contemporaine. Voilà, je dirais que là, ça a été assez simple et joyeux. Je n'ai pas envie, en fait, dans ce projet je voudrais renoncer à certains automatismes que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, que j'ai appris à travers différentes écoles. Et donc, à la fois, elle rentre dans la danse contemporaine, et à la fois, j'abandonne ce que j'ai appris dans la danse contemporaine pour m'aventurer vers des choses que j'aurais pas faites dans un solo ou avec une autre danseuse ou d'autres danseurs contemporains. Donc voilà.
Tout à l'heure, vous avez parlé de comme si c'était aussi un rapport mère-fille, la question aussi d'une génération, de deux générations. Il y a la danse contemporaine, mais il y a une danse avant la danse contemporaine.
Oui, oui.
Et moi, ça m'a fait à des moments penser à un poème de Mahmoud Darwish qui s'intitule « À ma mère » et qui commence comme ça. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, des cheveux de ma mère, de l'odeur de ma mère. Il y a tout un jeu avec Naïma, avec les cheveux, de toucher les cheveux. Et il y a des jeux de très mère-fille. Des jeux très 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 enfants en même temps, à un moment donné quand vous lui sautez sur le dos.
et qu'elle vous porte, il y a quelque chose vraiment de très mère-fille, quoi.
Elle a un petit peu ce côté nounours, mère, protectrice. Elle a un corps enveloppant, elle a une présence enveloppante. Et elle a à la fois aussi l'inverse, à travers son chant, une tension et une quelque chose qui est complètement ramassé, un poids bien, bien à la verticale. Et j'aime beaucoup ces deux côtés. Et elles l'ont toutes différemment. Tu mets des années, en fait, à apprendre ça techniquement dans la danse contemporaine. Et j'étais assez fascinée de pouvoir voir des femmes ayant ce poids-là, qui est pile poil là où il faut, alors qu'elles n'ont jamais entendu parler de danse contemporaine. Et donc, je suis assez intriguée de savoir comment... Et j'apprends aussi en dehors de cette création, parce que ce projet, ce n'est pas juste un spectacle, c'est une recherche qui va me prendre plusieurs années. Je ne me suis pas simplement dit, ah tiens, ça serait super de faire. Donc à la base, c'était une réelle volonté d'apprendre, d'aller faire un stage, et ce stage-là n'est pas d'une semaine, c'est de trouver, je dirais, mes repères, les repères de... Quelle est ma danse, voilà, quelle est ma danse, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, où est-ce que je vais, et donc voilà. Et puis à ce rapport entre ma vie en Occident, au Maroc, voilà, donc à cet aller-retour, hein. Jusque là j'avais pas encore trouvé de matière concrètement là-bas, au Maroc. J'ai eu beaucoup de figures comme Mathilde Monnier, Bernard Daumonté, Boris Charmatz. Et il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, tout en sachant pas où le trouver. Et je suis tombée sur une cassette vidéo en noir et blanc d'un documentaire sur des femmes, sur les chanteuses à état. Un documentaire dans les années 80. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Où elles sont? Est-ce qu'il en existe encore? Et en fait, il en existe extrêmement peu, puisqu'il n'y a pas eu transmission. Donc les femmes maîtrisant encore tout ce répertoire-là se comptent sur les doigts de la main. Et c'était une urgence pour moi d'aller puiser là, puiser ne serait-ce que pour connaître un petit peu plus une autre forme d'art au Maroc.
Comme si pour pouvoir s'inscrire dans un temps contemporain, il fallait trouver son propre temps archaïque.
Oui, oui. Oui, complètement. Complètement.
Quand on vous a vu faire la performance sous la yourte, donc vous arrivez
au Sanitas.
Oui, au Sanitas. Vous êtes chorégraphe, danseuse, reconnue, etc. Vous dansez et vous avez. Ce qui vous intéresse, c'est des périodes de perturbation ou d'invitation. Par exemple, vous avez invité une femme qui était spectateur. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange comment cette invitation s'est passée, en fait. C'était extrêmement corporel. J'ai vu deux corps parler ensemble pour qu'il y ait cette invitation. Sur cette capacité à aller vers l'autre et à être reçu et à faire danser l'autre ou à danser avec l'autre, à ce que l'autre nous fasse danser et modifier comme ça des mouvements ou des rapports.
En fait, rien n'était calculé puisque c'était une invitation à improviser. Alors, donc, vu que c'était sous une yourte, vu que c'était entre des HLM, peut-être des gens qui ont vu pour la première fois et qui ont été confrontés pour la première fois à de la danse contemporaine, j'ai préparé quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a autre chose qui s'est passé que je n'ai pas vu, mais que j'ai senti. Donc, il y avait peut-être trop... J'avais prévu de commencer dans le silence, mais... Entre les enfants qui... on avait finalement affaire à un public au Maroc. On n'avait pas affaire à un public de théâtre. Et donc, ça aurait été extrêmement difficile de commencer sur un temps de silence. Et dès que Naïma s'est mise à chanter, cette femme a été prise tout de suite. Et j'ai eu envie de danser à côté d'elle, et puis automatiquement, il y a juste eu une invitation à venir, elle est venue, et donc voilà, ça a été un moment génial. Bon, ça peut pas marcher à tous les coups, ça se prévoit pas, ça arrive, hein, ça arrive comme ça, ça arrive sans calcul, au moment où ça arrive, on ne comprend pas, même après, quand tu essaies de faire le chemin inverse, tu ne sais pas vraiment tout ce qui s'est passé, c'est de la vie,
On avait envie de vous faire entendre, justement, parce que vous avez parlé de comme si c'était les conditions de danse au Maroc, et on avait envie de vous faire entendre quelques mots de Toufik à propos du festival danse à Marrakech. Mm-hmm. Donc on vous fait entendre ce qu'il en dit. Tu diriges également, enfin tu as fondé un festival au Maroc, à Marrakech. Dans le centre chorégraphique ici de Tours est partenaire de ce festival. Comment tu pour toi ce festival, c'est un festival à Marrakech qui regarde la création du Maroc, ou est-ce que pour toi ce festival c'est un festival comme un pont entre l'Europe, la France et le Maroc?
Pour moi déjà c'est un festival militant. Je l'avais créé avec la compagnie, c'est parce qu'il n'existait avant aucun festival qui donne le droit et qui donne la place à la création marocaine de s'exprimer. Alors la première édition, c'était vraiment que pour les Marocains. Et la première fois, on voyait plein de Marocains sortir de l'ombre et aller vers un public. Et la première fois, un public marocain se rend compte qu'il a cet art chez lui. C'était un grand risque. Ça réussit, heureusement. Et plus tard, c'était la place de ne pas enfermer ce public-là dans cette création marocaine, qui vient de se naître, bien sûr, qui n'a pas encore, on n'a pas encore des grands créateurs. On est encore à la recherche. Et offrir d'autres formes, d'autres écritures, d'autres manières de danser, d'autres. Sauf l'intelligence et la question, c'était pas offrir n'importe quoi conforme. Si j'avais les moyens, je voyage partout dans le monde, pour moi, je suis pas à la recherche des grandes têtes et des grands gens qui ont marqué la danse, je sais pas où, en Russie, en France, en Belgique, aux États-Unis, ou j'en sais rien. Je suis à la recherche des vraies créations, des vraies choses d'aujourd'hui, des vraies choses qui remettent en question, des choses proches à notre problématique, et ainsi de suite. Et là, c'est qu'une affaire de moyens. Ça peut être français, comme ça peut être japonais, comme ça peut être africain du Sud, comme ça peut être malgache. Voilà. Et du coup, je ne suis pas dans une affaire de Méditerranée, ni un pont entre l'Europe et la France, au Maroc, ni quoi que ce soit. Je suis dans un pont de création. Et comment profiter de ce qui s'est passé ici, dans ce monde chorégraphique, ici en Europe et tout ça, les choses que les gens sont en train de remettre en question, les choses qu'ils ont échouées, voilà, les festivals qui commencent à devenir comme les mêmes festivals gauche-droite, ça veut dire on trouve le même festival, je ne sais pas, j'exagère, ça veut dire on trouve les mêmes têtes à Toulouse, et c'est les mêmes qui vont former un festival à Cahors, et c'est les mêmes qui vont faire un festival à Saint. Moi, je suis contre ça, quelque part. Ça veut dire comment profiter de parce que c'est un pays vierge, mais entre parenthèses, au niveau de la création contemporaine et tout ça, comment profiter de ce public qui est encore frais, de ces danseurs et tout ça qui sont encore frais, et mettre en place quelque chose qui est encore frais.
Ça veut dire aussi peut-être s'affranchir de l'histoire de la danse.
Voilà, s'affranchir de l'histoire de la danse et mettre une nouvelle... Si je fais un festival au Maroc, qu'est-ce que c'est que ce festival? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui voulait aller dans mon festival, en allant à Montpellier, la même chose, c'est pas la peine d'aller jusqu'à le Maroc. Et comment ce festival prendre en compte cette problématique de ce pays-là. Voilà, alors, parce qu'il y a un problème de rapport au corps, le rapport à la religion, le rapport à la tradition, le rapport à plein de choses, homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, il a akhiré, bon, je l'ai dit en arabe, et ainsi de suite. Et du coup, ça veut dire comment de tout ça créer quelque chose un petit peu qui n'est pas en décalage total avec la réalité, chose qui se passe malheureusement dans quelques pays africains ou arabes. Voilà. Et du coup, ce festival, c'est un laboratoire qui met en priorité quelque part tout ce qui est aussi de créatif, de recherche, et de pensée, d'original et de particulier. Voilà.
Et ça veut dire qu'aussi, donc, du coup, il y a des résidences en amont de ce festival où des formes sont pensées par rapport à la spécificité de...
Si tu veux, la première chose qu'il y a dans le festival, eh bien, par exemple, en parlant de danse flaparte. Danse à l'appart, on danse dans des appartements. Elle était née, il va continuer, parce qu'il n'existe aucun lieu pour la danse contemporaine au Maroc. Ça veut dire, pour danser, on danse dans nos appartements. Alors, on s'est retrouvé en train d'inventer des nouvelles formes, malgré nous, parce que dans un appart, eh bien, pour danser, tu sais très bien, tu ne peux pas crier, ni mettre la musique fort, ni tomber, ni chuter, ni plein de choses. Alors, on se retrouve dans une nouvelle forme de danse qui est liée à l'intériorisation de la danse plutôt que l'éclat. Parce que tu ne peux pas t'éclater, ou bien tu t'éclates, et bien c'est une autre technique, tout ça. Et bien on se posait la question, pourquoi pas? Peut-être c'est notre réalité, c'est aujourd'hui. Peut-être on est en train de vivre une période qui s'appelle danse flaparte. Peut-être dans 3 ans, il y aura 6 000 lieux au Maroc, et du coup, on a fait la période danse flaparte. Et du coup, on a développé ce principe. Et on ne l'a pas développé que danseurs, c'est danseurs, chanteurs, cinéastes, vidéastes, tout le monde, designer, des gens d'installation et ainsi de suite, tout le monde est convoqué pour cette forme de danse flaparte. Et du coup, c'est un petit peu le bébé de festival. Et là, maintenant, on va carrément dans une autre forme, c'est danse contre nourriture. Maintenant, ça sert à autre chose, danse contre nourriture. C'est lié, on parle souvent de l'hospitalité marocaine, de la danse, que les femmes, ils dansaient chez eux cachettement, et ainsi de suite, mais ils ne dansaient pas devant. Voilà, il n'y a pas dans la rue, mais dans les maisons, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, de danse, de joie, de. Ça veut dire qu'il y a de la danse, sauf qu'il est caché. C'est sa représentation qu'il est interdit. Alors là, on va aller chez les gens. Ça veut dire, je danse, tu me donnes à manger, et on discute autour de la danse. Et ça, on l'appelle danse contre nourriture. Et comme ça, la danse contemporaine, elle rentre. Aussi, ça aussi c'est original, c'est une idée qui vient d'arriver. Après, tous les débats qui sont là, eh ben, sont liés à la problématique de ce qu'on vit et notre rapport au monde. Ça veut dire on n'est pas en Alaska, on va pas dire qu'on est en Alaska. Imaginons, non, il y a un problème, il y a une urgence ici. Comment on peut la régler maintenant ici? Et après, ben, toutes les formes qui sont présentées. Et maintenant, il y a autre chose qui s'ajoute, c'est la rue. Alors, bien sûr, la rue, ça existe partout, mais la rue au Maroc, c'est autre chose. C'est pas comme la rue à Marseille ou la rue là ou là ou là. C'est voilà, si tu veux aller danser devant les gens, et ben qu'est-ce que tu leur présentes? Attention, parce que ça peut d'un coup s'interpréter mal. Un homme qui touche un homme et qui vont jusqu'au bout dans ce contact, et ben tout de suite peut être interprété très très mal. Ah, c'est ça la danse contemporaine. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça tue tout. Et du coup, il y a toute une réflexion sur le toucher, sur la danse, sur qu'est-ce qu'on va mener à ce public pour l'amener vers nous et pas le faire partir. Voilà quoi, c'est un grand, grand, grand chantier, grand laboratoire de questionner notre société, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas, quand est-ce qu'on peut oser, quand est-ce qu'on ne peut pas, comment on peut, voilà.
Amener le public en confiance pour... avancer et oser des choses après.
Oser des choses plus tard. Il faut qu'ils comprennent déjà de quoi il s'agit avant de le... Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut balayer tout et mettre en place ce qu'on veut. Non, moi, je dis qu'il faut composer avec ces gens, il faut aller avec eux. Et voilà. Et plus qu'ils sont en confiance, plus qu'ils peuvent comprendre vraiment de quoi il s'agit.
Et peut-être aussi la seule manière aussi peut-être aussi de ne pas tomber dans une dichotomie spectateur danseur.
Bien sûr, ça change le rapport à l'espace, le rapport au public, le rapport à, dans un appart, t'as pas de lumière, t'as pas de plancher, t'as pas de son, t'as rien. Ça veut dire tu arrives, c'est toi et c'est 10 ou 14 personnes. Point. Et ça, on le voit, je crois qu'aujourd'hui, que là, quoi.
Du fait du contexte, que du coup, ça oblige à repenser les formes. Et à faire en sorte que des formes émergent du contexte.
Exactement, exactement. À la fois cette création, à la fois le festival, On marche à Marrakech, tout ça est pensé à l'intérieur du contexte et donc c'est fait en sorte qu'il y ait une construction donc à long terme, à la fois sur les formations qu'on met en place, à la fois sur le rapport au public avec le festival, les artistes qui sont invités, certaines propositions hors théâtre, donc tout faire parler de danse contre nourriture, et donc qui est l'invitation à certaines familles à s'inscrire et puis à faire des tirages au sort et afin qu'elles se retrouvent parfois avec un artiste d'un autre pays, pas forcément marocain, mais qui est cette facilité de rencontre et que l'art ne soit pas cette chose inaccessible, inabordable. Donc voilà, et à rapprocher un maximum. Donc ici, ça n'a pas lieu dans... Il y aura bien sûr une programmation dans des théâtres chaque soir, mais quelles sont aussi les autres rencontres qui peuvent avoir lieu et comment certaines créations peuvent être faites spécialement pour ce festival.
Suzanne Birch, tout à l'heure, elle nous disait non pas ce que je veux, mais c'est que la situation demande.
Demande, exactement. Donc c'est complètement ça. C'est complètement ça. Tous ces projets, la situation demandait à ce que nous quatre artistes, donc Taoufiq, Izidiou, Saïda Etlimoumen, Bouchra Saleh et moi, louions un appartement à quatre et à ne pas se disperser parce que cet appartement-là, c'était un appartement de survie. On n'avait pas les moyens de payer le loyer chacun de son côté. Mais c'était aussi l'espace de regroupement. Donc, ça a été nécessaire d'avoir cet espace-là pendant 3 ans. Pas que pour nous, mais aussi pour les autres danseurs donc à Marrakech. Pour aussi le festival, pour des spectacles qui ont lieu là, pour des résidences. Donc, ça a été un espace de survie pendant un moment. Et c'est devenu, par la suite, un réel espace de création. Un point de rencontre pour les autres artistes et un point de repère pour la compagnie. Donc ça a été, l'appartement a été pris pour comme disait Suzanne, parce que c'est la situation qui le demande, donc voilà, il y a ça et la programmation aussi pour le festival. On ne procède jamais dans chaque édition sur des thématiques ou sur on montre tel artiste ou tel artiste cette année. C'est chaque année une pierre de plus qui est posée pour la construction de quelque chose qui est à long terme, qui pourra exister avec des moyens financiers, mais qui existera aussi de toute façon, même sans moyens. C'est-à-dire que le festival est imaginé aussi, au cas où il y aurait une rupture de financement, on est capable de le monter aussi sur 2-3 jours parce qu'il y a d'autres projets solides et parce qu'il y a aussi des liens à la fois avec d'autres artistes dans la ville, d'autres personnes qui peuvent loger, des personnes qui peuvent nourrir et des artistes à l'étranger de qualité qui font un travail remarquable, qui peuvent aussi venir et soutenir. Donc voilà.
Oui, c'est finalement aussi ce que la situation demande, c'est ce qui s'est passé à la yourte aux Sanitas.
Oui, oui.
C'est des choses qui arrivent sur le festival parfois quand que le le déroulement d'une chorégraphie puisse être modifié en fonction de l'interaction de ce qui se joue avec le public.
Là, donc, dans la yourte, avec Naïma, on n'avait pas. J'avais juste prévu de faire une danse assez lente. C'était pas une chorégraphie, mais j'avais conçu ça plutôt sur des énergies, des états. Tout comme le duo, hein. Le duo n'est pas hyper chorégraphique. Il est sur un état. Chacune est dans un état dans la rencontre. Et finalement, peu importe si les mouvements sont beaux, si ils sont précis, si techniquement c'est incroyable. C'est pas le propos. Sur cette pièce et sur tout le travail avec les femmes chanteuses, avec Léa Etta. Pareil sous la yourte, il y avait juste un début, un milieu, une fin. Voilà, ça a été complètement chamboulé. Tant mieux.
Sur le spectacle, il semble qu'il y a quand même un moment de, on va dire, de rencontre, c'est-à-dire un moment où chacun fait un pas. Qui semble être le moment où vous dansez sur une danse sur une musique très contemporaine, qui n'est pas une musique traditionnelle, une musique de discothèque.
La fin, la dernière, oui. Oui. Une musique de slow.
Et il semblerait que c'est un pas de la danse contemporaine et un pas des Aïta, à un moment donné, où d'ailleurs vous dansez l'un derrière l'autre. Enfin, à un moment donné, les deux corps cherchent à se confondre aussi.
Ouais. Non, ce que je trouve génial chez elle, c'est quand tu lui mets du BB King ou quand tu lui mets du rap ou quand tu lui mets du blues, ça lui paraît pas étranger. C'est quelqu'un qui est constamment dans le rythme et qui n'a aucun souci, aucun complexe avec son corps. Donc, je pense que les seules choses qui ont été traversées, qu'elle a appris avec moi, ça a été plus le silence, voilà, par rapport à la danse contemporaine. Et la chose que j'ai le plus appris avec elle, c'est l'humour dans la danse contemporaine, voilà, mettre un petit peu plus d'humour, et puis, je sais pas, être plus heureuse, être plus joyeuse. Oser sourire, oser être contente sur scène et pas être dans une constamment que sur des choses graves, que sur des choses lourdes, que sur des choses critiques à critiquer, que sur des choses à remettre en question. Donc là,
sur la question en fait de l'origine, du point de départ, du point d'arrivée, d'aller d'un lieu à un autre. Donc avec la question de la danseuse ou de la Aïta, à un moment donné, en fait, avec un pistolet sous la menace, vous exigez d'elle, enfin vous lui posez des questions. Et à toutes ces questions, en fait, c'est terrible, puisque c'est non, en fait. Et donc les questions, c'est identité, appartenance, qualité particulière, etc., etc. Chercher à la reclasser, à la recloisonner dans quelque chose de bien précis, alors que chacune, en fait, justement, était dans un mouvement, était dans le mouvement, quoi.
C'est quelque chose qui revient sans cesse dans la vie. Les classements, les cases, les étiquettes, ça revient constamment. Cette partie-là, avec les fusils, où je lui demande son visa, son passeport, son adresse, sa fiche d'identité, cette sorte de d'interrogatoire policier, c'est simple, c'est qu'elle l'a vécu réellement, puisque dès qu'elle a commencé la résidence avec moi, j'ai commencé à faire refaire sa carte d'identité, son passeport, son visa. Et c'était en plein Ramadan, donc elle jeûnait, elle arrivait, elle était épuisée, elle mettait 5 heures pour avoir un certificat d'hébergement, mais pendant une semaine, de 9 heures du matin à midi. Et donc elle arrivait un jour, elle me dit j'en peux plus, je suis énervée, j'en peux plus. Cette scène est née de là. Elle est née de là. Elle est née aussi de la difficulté de pour un artiste, autant à la fois pour elle par rapport à son statut au Maroc, mais autant aussi à la difficulté aux artistes de voyager, surtout pour les artistes africains. Donc c'est un petit clin d'œil pour moi sur la circulation de l'artiste, et un petit clin d'œil aussi la difficulté d'avoir un visa, la manière dont t'es traité au moment où tu demandes un visa, comme si tu demandais le sésame, comme si tu demandais quelque chose. C'est très difficile à obtenir. Parfois, ça passe par une humiliation. Donc, je n'en pouvais plus. Elle n'en pouvait plus. Et on a tourné ça. Donc, parfois, cette scène, elle est vraiment marrante. Parce que c'est un peu grotesque de sortir comme ça avec des flingues dans une pièce où, bon, on était censé être en train de danser. Plus des flingues en plastique. Et parfois, elle est pas marrante du tout. Elle est pas marrante du tout parce que... Bon, s'il y en a quelques-uns à l'intérieur qui ont vécu la difficulté de pouvoir d'Afrique arriver en Europe, bon, je l'ai un petit peu moins maintenant. Mais la difficulté est là pour les nouveaux artistes qui travaillent avec moi. Autant donc au Maroc pour avoir simplement un certificat d'hébergement, comme ça l'est pour avoir un visa. Et je supporte plus de baisser la tête où que ce soit, par rapport au pouvoir marocain ou dans un consulat français. Donc, un de ces quatre, je vais créer un solo où je vais peut-être parler du visa. Visa pour la création, visa pour la circulation, visa pour venir juste simplement vous voir à Tours pour prendre quelques jours de vacances. Tout ça est très difficile, tout ça se complique. Et... voilà. Il y a un côté pour Naïma là-dedans, donc par rapport à ses difficultés, sur toute la construction de ses papiers d'identité. Et puis il y a aussi, de mon côté, cette sensibilité à la circulation des individus dans cette planète. Voilà. C'est permis pour certains dans le nord, c'est pas permis pour d'autres dans le sud. Pourquoi il y a des différences comme ça? La nature, et d'ailleurs Suzanne disait, la nature de l'homme, elle a fait une conférence aujourd'hui sur le voyage. Alors couper le voyage, qu'est-ce que c'est que couper le voyage à quelqu'un?
Oui, d'autant plus qu'elle reliait l'expérience du voyage à l'expérience de l'art.
Exactement.
Couper le voyage à quelqu'un, ce serait aussi le couper de l'expérience de l'art.
Oui, voilà.
Et de liberté, du coup.
Oui, totalement.
Mais quasiment presque de la terre, si on considère que... La terre, en fait, elle se vit que si tu la traverses.
Oui, oui. Ben, on est de nature, des hommes faits pour le mouvement. On est fait pour le mouvement, la transformation, aller d'un point à un autre. Et je suis désolée, nos points, c'est pas de Tintin à Tanger. Ça peut être de Tintin à Tokyo, de Tokyo à... à d'autres pays en Europe ou en Afrique ou voilà, donc cette injustice là ce sera un solo pour un de ces quatre. I've got dreams to remember. I've got
À bout de souffle. C'était un entretien avec Bouchra Wesgen à propos de la pièce chorégraphique, le duo Aïta. Une première étape de travail pour une pièce de corps et de chant, Madame Plaza, un quator dansé. Entretien croisé avec Taoufik Zediou pour le festival On Marche, festival de danse à Marrakech. Voilà, à bout de souffle, c'est terminé. Mais rassurez-vous, en janvier, à Marrakech. audioblog.arteradio.com/a-bou-2-souffle.